bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous vous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Père, nous te remercions pour ta parole encore ce matin. Merci pour les révélations du monde invisible. Parce que Seigneur, ta parole nous enseigne. Et nous voulons, Seigneur, mettre ta parole dans nos têtes et dans nos cœurs. Nous voulons comprendre, Seigneur, avec notre esprit. Et nous savons, Seigneur, qu'avant que ta parole descende dans notre esprit, nous devons la comprendre avec nos têtes. C'est pourquoi je prie que ce matin encore, tu illumines les yeux des cœurs de ton peuple. Mais aussi, Seigneur, que tu nous donnes de l'intelligence dans les mentalités divines pour que nous puissions comprendre ce que nous ne voyons pas avec nos yeux, mais ce que ta parole nous révèle. Et aussi, Seigneur, que nous ne croyons pas des choses qui sont fausses, que le monde essaye de nous donner. Et nous voulons croire ce que ta parole dit. Et nous voulons ne pas croire ce que le monde peut essayer de nous faire croire. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous en sommes dans cette série sur le monde invisible. Et nous allons continuer aujourd'hui. Je vous rappelle que Dieu a créé le monde invisible et après il a créé le monde visible. Dieu est le créateur de toutes choses et il est hors classe, c'est-à-dire que personne ne peut rivaliser avec Dieu. Il y a un fossé infranchissable entre Dieu créateur et la créature. Donc nous avons vu que Dieu a créé trois cieux et qu'il a créé la terre. Nous avons vu que le premier ciel, c'est l'atmosphère autour de la terre. Le deuxième ciel, c'est tout ce qui est planète étoiles. Et le troisième ciel, bien sûr, c'est là où Dieu habite. Nous avons vu qu'au troisième ciel, il y a le trône de Dieu. Il y a aussi les chérubins et les séraphins, qui sont donc des créatures angéliques de très haut rang et qui gardent l'intégrité du trône de Dieu, qui a essayé d'être remise en question lorsque Satan s'est rebellé. Au troisième ciel, nous en avons un certain nombre de descriptions dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, entre autres avec Ézéchiel, chapitre 1, chapitre 10, nous les avons étudiés. Mais nous avons aussi pas mal de révélations dans le Nouveau Testament, particulièrement dans l'Apocalypse. Et nous avons remarqué qu'il y a bien le trône de Dieu, il y a aussi les 24 trônes autour du trône de Dieu. Il y a des anges. Nous avons vu qui était supposé être sur ces 24 trônes. Nous avons vu aussi qu'il y a la Jérusalem céleste. Le trône est au milieu de la Jérusalem céleste. Nous savons qu'il y a des montagnes, qu'il y a des rivières dans le ciel. Il y a des maisons. Nous avons une demeure qui est préparée pour nous quand nous allons partir de notre corps et que nous allons aller auprès du Seigneur. Nous avons étudié tout cela. Nous avons vu qu'il n'y a ni diable et démon dans le troisième ciel, mais qu'il n'y a que Dieu, les êtres angéliques de très haut rang qui sont restés fidèles à Dieu, c'est-à-dire les chérubins et les séraphins. Et puis nous avons vu donc cette Jérusalem céleste. Donc tout ça, nous avons bien étudié. Ensuite, nous avons regardé un petit peu les anges. Ces créatures angéliques extraordinaires que Dieu justement a créées, et on a vu que c'était des esprits au service de ceux qui le servent. Ceux qui doivent hériter du salut, pardon. Nous avons vu que les anges sont hiérarchisés. La Bible appelle Dieu l'Éternel des armées, nous l'avons vu. Et l'Éternel des armées, c'est relaté à l'armée des anges. Yahweh
Sabaoth.
Et en fait, c'est là où on voit qu'il y a une hiérarchisation que Dieu a prévue. Et on s'est posé un certain nombre de questions aussi par la suite. On a vu le rôle des anges dans le ciel, autour du trône de Dieu, à glorifier Dieu. On a vu le rôle des anges aussi sur la terre. On a vu que les anges ont des noms. On a vu un certain nombre de choses à propos des anges, qu'on ne peut pas se prosterner devant eux. Que nous avons un ange gardien. Nous avons vu qu'à partir du moment où quelqu'un meurt en Christ, il est porté par les anges. Nous avons vu aussi qu'il y a un ange sur chaque vraie œuvre de Dieu. Et c'est là où on doit faire la différence entre la vraie œuvre de Dieu et la fausse œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu qui est de mandat divin. Alors ensuite, on s'est posé des questions parce que nous avons étudié Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2. Et on s'est posé des questions à propos de l'histoire de la terre. Au verset 1 de la Genèse, chapitre 1, le verset du dessus, s'il vous plaît, où il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, donc les trois cieux et la terre. Et puis on a vu, verset 2, la terre devint informée vide, c'est la meilleure traduction. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et quand on regarde ce que la Bible nous révèle, et elle ne nous révèle pas énormément de choses là-dessus, on sait que l'univers et donc la terre a été créé il y a pas mal de milliards d'années. On pense environ 13 milliards d'après les scientifiques. Je ne suis pas contre cette explication. Par contre, on sait que l'homme créé à l'image de Dieu n'a pas des milliards d'années, il n'a pas évolué non plus. Nous savons que l'homme a 6000 ans. C'est ce que la Bible nous montre clairement. Et d'ailleurs, je vous rappelle que les scientifiques nous disent que ce qu'ils appellent eux l'homme moderne est apparu environ il y a 10 000 ans. Et je vous rappelle que la science n'est pas à rejeter à partir du moment où elle ne contredit pas la parole de Dieu. Par contre, tout ce qui est de la science qui contredit la parole de Dieu, nous le rejetons. Et puis, en étudiant certains passages de la Bible, on s'aperçoit que dans le domaine du monde angélique, il y a eu un chérubin qui s'est rebellé. Et en fait, on s'est aperçu qu'effectivement, Lucifer, qui était son nom avant, astre brillant, nous avons étudié Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Ces deux passages nous montrent clairement quelque chose. C'est que ce chérubin s'est rebellé. Donc Satan, celui qui est devenu Satan, s'est rebellé contre Dieu, a voulu prendre la place de Dieu. La Bible nous montre qu'il y a des anges qui l'ont suivi. Il semblerait qu'il y en ait un tiers d'après Apocalypse 12. Et que donc ces anges qui se sont rebellés, eh bien, il y en a une partie qui ont été capturés. Bien sûr, ces anges qui se sont rebellés sont devenus les démons. Et nous savons donc que c'est une partie des démons sont capturés, sont en prison aujourd'hui, prison des esprits, on étudiera ça un peu plus loin. Mais il y a d'autres anges qui se sont rebellés, qui sont donc les démons, qui sont en opération. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir aujourd'hui. Et je vais un peu démystifier un certain nombre de choses pour que vous puissiez vraiment bien comprendre là où est le rôle des mauvais esprits du diable. Parce que rappelez-vous d'une chose, nous sommes sur la terre. Le diable a récupéré la gestion de la terre parce que Adam et Ève lui ont donné cette gestion. L'histoire que vous avez dans la Bible, c'est quoi? C'est l'histoire du royaume de Dieu qui a été perdu sur la terre, mais il va être retrouvé. Parce qu'il faut que vous compreniez toute l'image, là où Dieu veut en venir. Dieu avait prévu d'étendre son royaume sur la terre. Il avait mis Adam et Ève pour régner sur la terre. Et Adam et Ève dans le jardin ont accepté de donner la gestion de la terre à l'ennemi de Dieu. C'est l'histoire du jardin d'Éden. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et comme nous allons le voir dans certains noms ou certaines descriptions que la Bible nous donne à propos du diable, on verra que le diable est ici, sur la terre, avec ses copains les démons, pour influencer les êtres humains. Rappelez-vous que dans la création, il n'y a que deux types d'êtres qui ont été créés, qui sont des êtres spirituels. Ce sont les anges et les hommes. Toutes les autres créatures ne sont pas des êtres spirituels. La différence entre un être spirituel et un être qui n'est pas spirituel, par exemple comme un animal, c'est qu'un être spirituel ne cesse jamais d'exister. Nous verrons que bien sûr Dieu punit les êtres spirituels qui marchent dans le péché, qui sont rebelles à lui. C'est pour ça que la Bible va nous parler de vie éternelle et de mort éternelle. Donc, ayant fait ce résumé, nous allons continuer. Et je vais vous montrer quelque chose d'important. C'est les influences spirituelles au premier et deuxième ciel. Parce que je veux que vous compreniez un certain nombre de choses dans le monde spirituel. Afin que vous puissiez prier efficacement avec puissance. Il est très important de comprendre que nous les êtres humains, nous sommes influençables et nous sommes aussi influencés. De ces influences, nous prenons des décisions. Ces décisions nous amènent dans des directions. Et ces directions façonnent notre destinée. Divine ou non divine. Donc les choix que nous faisons ne sont pas des choix hasardeux. Tu prends pas une décision comme ça. Si tu prends une décision, c'est qu'il y a une influence derrière tout ça. Ça peut être le royaume de Dieu. Ça peut être ta chair. Ou ça peut être des esprits sataniques. C'est pareil avec tous les êtres humains. Maintenant, nous allons voir ce que justement ces esprits sataniques peuvent faire ou ne pas faire. Et comment un chrétien né de nouveau peut se prémunir, c'est-à-dire empêcher ces influences sataniques. Vous avez jamais remarqué, parfois, vous avez des gens que vous connaissez et qui vous disent: ah, ça, moi, jamais je le ferai.
akakubwira ngo jewe icyo kintu ntacyo nshobora kupfa narakoze.
Et quelque temps après tu entends mais il a fait ça?
Ha mukazamva chiminsi ngo eh yarakoze
cyane. Tu es complètement étonné.
Ugatangara cyane.
Tu te dis mais comment est-ce possible?
Ukavuga uti byo bishoboka gute?
C'est quelqu'un qui était droit, qui marchait bien.
Kwera umuntu agororotse.
Qui était sérieux.
Avugane umusereye.
Et qui disait tout le temps jamais je ferai ça.
Akavuga ati je ibyo sinshobora gupfa no bikora.
Par exemple, il a eu un père alcoolique. Et il dira tout le temps, ah, moi j'ai vu le ravage qu'il y a eu à la maison. Mon père qui revenait sous tous les soirs, qui faisait beaucoup de bruit, ça nous réveillait nous les enfants. Et puis il frappait ma mère. Et ça t'a laissé des traces à l'intérieur. Et tu diras, moi, jamais je ferai ça. Et tu entends quelque chose, quelqu'un qui dit ça régulièrement. Il se marie et quelques années plus tard il revient ivre tous les soirs et il frappe sa femme. Pourquoi cela? Alors qu'il avait dit qu'il ne ferait jamais ça, qu'il en a souffert lui-même. Pourquoi est-ce qu'une personne, un être humain qui a souffert d'une situation se retrouve dans le même genre de problème? Même chose par exemple pour les filles
mères.
La grand-mère a eu un enfant hors mariage. Cet enfant a souffert d'être élevé seul par la mère. Blessé, etc., etc.
Et
dira-moi vraiment, voilà tout ce que j'ai souffert dans ma vie. Et vous apercevez que la fille qui a souffert de ça, très souvent, elle va faire le même problème. Ça s'appelle de l'influence. Ça s'appelle de l'influence. De l'influence. C'est pour ça que parfois on voit dans certaines familles des choses qui se répètent. Et alors on va appeler ça malédiction. C'est pas tout à fait malédiction. Si tu es en Jésus, ce n'est pas une malédiction parce que la malédiction, tu en as été racheté. Maintenant, l'inconverti, lui, il n'est pas racheté de la malédiction. Donc, ces esprits mauvais vont lui tourner autour. Jusqu'à temps qu'il tombe dans les mêmes choses. Et c'est des esprits qui vont dominer ces familles. Maintenant, supposez que quelqu'un reçoit Jésus dans la famille. Cette personne n'est plus dans le royaume des ténèbres. Oh, je sens que ça parle à quelqu'un ce que je suis en train de dire ce matin. Et j'espère que ça va vraiment parler à vos cœurs. Parce que je veux que vous compreniez ces principes. La personne qui se convertit, elle n'est plus dans le royaume des ténèbres, elle est sortie du royaume des ténèbres. Mais les esprits qui sont sur cette famille vont essayer de continuer à travailler sur cette personne. C'est pour ça que cette personne qui est en
Christ,
elle va devoir savoir quoi faire par rapport à ses influences. Et vous pouvez marcher et briser ses influences dans vos vies. De façon très simple, si vous savez y faire, si vous comprenez le monde invisible. Le problème, c'est comme les gens ne comprennent pas, parce qu'ils ne plongent pas leur regard dans l'écriture, ça amène beaucoup de gens à faire tout un tas de trucs bizarres. On va essayer de faire tout un tas de choses dans leur vie, et ils vont se retrouver avec des problèmes. Parce qu'on va commencer à faire des choses spirituelles qui ne sont pas scripturaires. Donc nous allons parler de l'ennemi de nos âmes. Nous allons voir un petit peu le rayonnement de ce que Satan fait. Et comment justement nous pouvons vraiment faire échec à l'ennemi. Parce que vous allez découvrir que l'ennemi n'est pas si fort que ça. Mais ce qu'il faut, c'est comprendre l'influence du royaume dans vos vies. Si le royaume de Dieu vous influence, le royaume des ténèbres ne pourra pas vous influencer. Le jour où Satan s'est rebellé contre Dieu, il y a un autre royaume qui est né, qui n'existait pas dans la création. création de Dieu. C'est le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres n'existait pas quand Dieu a créé les cieux et la terre. Le royaume des ténèbres est apparu lorsque Satan a voulu prendre la place de Dieu et que ses anges, les anges qui ont péché, qui n'ont pas gardé leur dignité, comme nous dit Jude, comme le dit le livre de Jude, eh bien, ces anges qui sont devenus démons l'ont suivi. Mais rappelez-vous d'une chose. Les anges sont hiérarchisés. Et nous avons vu qu'ils sont hiérarchisés et ils ont une puissance différente. Lorsque un tiers des anges ont suivi le diable, et je vous dis, un tiers de ces anges qui ont péché, une partie de ce tiers a été mis en prison. Donc, n'ont pas d'influence. Et je vous montrerai où ils sont aujourd'hui. Depuis la chute. Mais une autre partie, qui sont les démons, ont aussi une certaine hiérarchisation avec certaines puissances différentes. Nous allons le découvrir d'ailleurs. Nous allons commencer d'abord à regarder un texte que nous avons déjà vu qui se trouve dans Daniel.
Daniel
chapitre 10. On va lire donc l'histoire du prophète Daniel qui va vivre quelque chose d'absolument troublant pour lui.
Daniel
va avoir une vision, c'est un ange qui va lui annoncer un certain nombre d'événements.
Daniel yaronse ukwerekwa umumarayika amubwira ibintu bigiye kuba.
Donc je vais lire assez rapidement à partir du verset 1, s'il vous plaît. Daniel 10 à partir du verset 1, et nous allons lire donc « La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. » Verset 2 « En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. » Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levais les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phaz. Son corps était comme de la chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et je fus décomposé, et je perdis toute vigueur. C'est-à-dire qu'il s'est écroulé par terre, ni plus ni moins. Verset 9. J'entendis le son des paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains pas, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Verset 13, s'il vous plaît, en Kirundi.
Ariko, Segaba, Ubgame Bgibu Peresi, Yamazimisi Mirongubiri, Nome, Anguanya, Hanma Mikael, Mwamuba, Gabi Shabahambaye, Azakunhabara, Sigarayo Mubami, Bibu Peresi.
Alors ici, il parle de choses spirituelles. C'est l'ange qui parle à Daniel dans une vision. Et il lui dit, le chef du royaume de Perse. Quand vous étudiez un peu les prophéties de Daniel, Daniel va recevoir des révélations sur la fin des temps. Et Dieu va montrer à Daniel un certain nombre d'empires qui vont se succéder. Il y a eu les Babyloniens, entre autres Nabuchodonosor qui est venu et qui a détruit Jérusalem et qui a déporté des Juifs. Daniel est un prophète qui a vécu très longtemps et il a été sous plusieurs de ses dictateurs. Daniel, quand, au début du livre de Daniel, il va y avoir comment dire, le premier roi babylonien. Ensuite, il va y avoir un autre roi qui va le succéder. Ce sont les Mèdes et les Perses. Un autre empire qui va succéder à l'empire babylonien. Et là, on est au temps où les Mèdes et les Perses ont conquis le royaume des Babyloniens, les ont battus. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là,
et
bien lorsque Daniel est en train de prier, par rapport à Israël qui a été qui est vraiment dans des moments très difficiles, où Jérusalem est détruite, les murailles aussi, c'est un désordre dans tout Israël, la gloire de Dieu est partie et les Israélites sont livrés eux-mêmes à cause de leur péché d'idolâtrie. Là, Daniel est à Babylone, dans l'Irak actuel. Et l'ange lui dit, tu vois, quand tu t'es humilié, ta prière est montée. Maintenant, il y a eu une opposition. Quand je venais avec la réponse, dans le monde spirituel, le chef du royaume de Perse, donc une principauté spirituelle, c'est-à-dire un esprit satanique de haut rang, mais dont il est parlé, vous voyez, du royaume de Perse. Rappelez-vous que c'était les Mèdes et les Perses qui avaient pris l'empire babylonien, l'avaient renversé. On n'est pas en train de parler d'ici d'un homme, le chef du royaume de Perse. On parle pas du, on parle pas de celui qui était à la tête de ce royaume-là. Physiquement, l'homme. On parle d'une principauté spirituelle satanique qui dominait ce royaume de Perse. Au travers, bien sûr, de leaders. Ça nous amène à comprendre une chose. Et je vais vous en donner certaines explications. Mais je vais aussi vous mettre en garde contre certaines doctrines qui vont trop loin dans ce domaine-là. Ici, la Bible nous montre clairement qu'il y a un royaume dédoublé. Invisible qui essaye de dominer le visible. Si vous voulez encore une preuve, je vais vous en donner plusieurs. Regardons la suite de ce passage. Au verset 20, alors que l'ange lui donne un certain nombre de choses, lui révèle un certain nombre de choses, au verset 20, il va lui dire la chose suivante. Il va lui dire, il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de Perse. Vas-y, Léon Kirondi. Et après, il dit, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Justement, Javan, c'est la Grèce. C'est la Grèce, c'est bien dit ici. Et quand vous étudiez l'histoire de ces empires qui se sont succédés, il y avait l'empire babylonien, qui a été conquis après par les Mèdes et les
Perses,
et qui a été conquis par qui après? Ben, l'Empire grec d'Alexandre le Grand. Et là, on parle de principautés qui se succèdent. D'esprits sataniques sur des territoires qui sont donc, qui influencent tout un tas de peuples sur la terre. C'est exactement ce qui se passe. Quand le royaume de Perse sera conquis par les Grecs, la principauté de Perse satanique donc va partir. Et sera remplacé par la principauté de cet empire grec. J'essaye d'éveiller quelque chose chez vous. Vous savez, il se passe des choses dans ce monde. Ce que nous voyons avec nos yeux, c'est le résultat de ce qui est en train de se passer spirituellement. Mais nous, justement, nous sommes l'église de Dieu. On va expliquer tout ça. Parce que je veux que vous compreniez ces choses. Quand vous regardez l'histoire des nations, observez bien ce qui se passe. Et vous allez apprendre beaucoup de choses à partir du moment où vous avez de l'intelligence sur le monde invisible. Les choses ne se passent pas par hasard. Aujourd'hui, si par exemple le monde musulman est en guerre, ce n'est pas par hasard. Il y a des choses spirituelles qui sont en train de se passer. Les esprits sataniques religieux sont les esprits les plus puissants que l'on trouve sur la terre. Il faut être très clair là-dessus. Les esprits religieux sont ceux qui amènent le plus de gens en enfer, qui créent le plus de guerres et le plus de fanatisme.
Et
ça, c'est vu dans l'histoire de ce monde. Maintenant, regardons une histoire dans Marc 5. Dans Marc 5, nous avons une histoire. Et c'est l'histoire du possédé de Gadara. Et Jésus va libérer un homme qui est possédé. Et c'est très intéressant d'étudier cette histoire dans le domaine spirituel. C'est une délivrance qui va s'opérer. Mais derrière cette délivrance, la Bible va nous donner un certain nombre d'informations sur ce royaume dédoublé. C'est-à-dire l'influence des principautés spirituelles sur des endroits, sur des territoires. Je veux que vous appreniez à ouvrir les yeux par rapport à ce monde spirituel. Il est dit au verset 1, ils arrivèrent, donc c'est Jésus et les disciples, à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Verset 2, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres. Regardez bien, un homme sortant des sépulcres, c'est-à-dire un homme qui vivait dans les cimetières et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Verset 4, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Verset 5, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et lui demanda, « Quel est ton nom ? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment. Regardez bien ce verset, c'est ce qui m'intéresse ici, verset 10 ici. Ce n'est pas la délivrance par elle-même, mais c'est plutôt ce que les démons vont dire à Jésus. Il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Alors, verset 11, on va lire un peu la suite. Verset 11. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le prièrent, disaient, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Et ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Verset 17. Alors, regardez bien, verset 17. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Verset 17 seulement. Regardez un petit peu spirituellement cette histoire. Nous voyons un homme qui est complètement fou, un être humain créé à l'image de Dieu, qui est possédé par des esprits sataniques. Et pas par n'importe quel genre d'esprit satanique. Parce que les esprits sataniques ont une certaine puissance. Et ils peuvent influencer les hommes. Ils peuvent rentrer dans l'âme des hommes aussi. Mais ils peuvent aussi posséder l'esprit d'un être humain. Et ça, c'est le degré dans lequel un esprit satanique peut s'exprimer le plus. Vous savez, il y a des gens qui disent celui-ci il est possédé. Quand tu dis ça, il faut que tu comprennes ce que tu dis. Parce que les démons peuvent agir d'une façon différente chez les gens. Ils peuvent les influencer. Et ces gens-là, à ce moment-là, vont prendre des décisions par rapport à leurs influences sataniques. Mais ces gens-là aussi peuvent avoir des problèmes de démons dans leur âme. À ce moment-là, les démons sont rentrés dans l'âme d'une personne. Et quand vous délivrez une telle personne, les démons se manifestent. Et puis, il y a un autre degré de possession qui là est très important, c'est dans l'esprit de la personne. C'était le cas de se posséder ici. Là, dans ces cas-là, les gens sont complètement fous et font peur. Et très souvent, il y a une influence satanique sur tout un territoire. Il y a des démons aussi qui vont oppresser le corps des gens. Quand un démon oppresse le corps d'une personne, cette personne est malade. On peut l'opérer de toutes sortes de choses. Vous savez, par exemple, le cancer. Il y a des gens parfois qui ont des tumeurs bénignes et d'autres des tumeurs malignes. C'est-à-dire, certaines tumeurs, vous pouvez les enlever avec une opération, faire de la chimiothérapie et la personne va guérir. Il y en a d'autres. La personne va se faire opérer. On va enlever les tumeurs, on va enlever un maximum de cellules cancéreuses. La personne semblera aller mieux quelque temps. Et au bout d'un mois ou quelques semaines, d'un seul coup, comme par hasard, le cancer s'est répandu partout. C'est signe de quoi souvent ? Il y a une puissance spirituelle derrière tout ça. Vous pourrez opérer la personne et lui enlever tous ses organes, le cancer continuera. Pourquoi ? Parce que la source n'est pas naturelle. Elle est spirituelle. Quand vous chassez ce genre d'esprit, eh bien, il n'y a pas de manifestation. C'est-à-dire la personne ne va pas crier, les démons ne vont pas se manifester au travers de la personne. Simplement l'esprit mauvais barre et la personne est guérie instantanément. Ça, c'est l'influence des esprits sataniques. Et vous voyez ici, que ce soit au verset 10 ou au verset 17, les démons priaient un instamment de ne pas les envoyer hors du pays.
Comme
si ils avaient une influence sur le territoire. Au travers de cette personne. Bien évidemment, au travers de cette personne. Parce que ce qu'on va apprendre dans ces leçons, c'est que le diable et les mauvais esprits ne peuvent pas avoir d'influence si nous ne les laissons pas avoir d'influence. Et c'est ça qui est très important que je veux que vous appreniez. Mais d'abord, je suis obligé de vous parler des influences. De telle façon que vous compreniez qu'il ne faut pas que vous laissiez des influences mauvaises vous tourner autour. Et quand vous voyez qu'il y a des influences mauvaises qui tournent autour peut-être de vos enfants ou de certaines personnes, vous pouvez parler à la personne, mais aussi Dieu va vous montrer ce qu'il y a autour. Pour que vous puissiez prier efficacement, vous chassez certains de ces mauvais esprits pour voir justement la victoire de Dieu se manifester. Mais il est clair que la Bible nous montre qu'il y a un royaume double. Il y a des esprits sataniques qui tiennent certains endroits. Si vous voyagez, pour ceux qui voyagent, vous verrez, vous serez étonné de voir certaines choses. Par exemple, quand vous allez à Paris, vous voyez qu'il y a vraiment une atmosphère d'incrédulité dans cette ville. Vous parlez de Dieu aux gens,
et
ils vous regardent comme si vous venez d'une autre planète. Et on voit vraiment que les Français ont laissé cet esprit satanique, cette principauté, au niveau de l'incrédulité, il est dominé. Vous allez à San Francisco, en Californie, vous sentez dans l'air l'atmosphère homosexuelle. Et vous le voyez chez pas mal de gens. Vous savez, les gens ne pêchent pas en société, entre guillemets, en groupe. Par hasard, derrière tout ça, il y a des influences. Vous allez donc à La Haye, donc en Hollande. Et bien, vous allez voir que il y a des trucs de drogue bizarres là-bas. Mais en masse. Comme si c'était quelque chose qui était là. Même ici, pendant la guerre, on a senti ces principautés de haine entre les gens. Pourquoi des gens se battraient pour des prétextes qui n'ont aucun sens? Jusqu'à se tuer les uns les autres. Pourquoi est-ce que l'Afrique a subi tant de guerres ces dernières années? Et parce que derrière tout ça, il y a des combats spirituels. Parce que le diable se déchaîne contre les gens. Pour pas qu'ils se donnent à Christ, pour qu'il y en ait le plus possible qui partent avant. Parce qu'il y a des combats spirituels. Parce qu'il y a, au premier ciel et au deuxième ciel, c'est ce que nous allons voir, des esprits. Éphésiens chapitre 6. Je veux que vous ayez de l'intelligence spirituelle. Je ne veux surtout pas que vous ayez peur du diable et des démons. Il ne faut jamais en avoir peur. Parce que nous avons toute victoire en tant que chrétiens. Par contre, vous devez comprendre ce domaine de l'influence spirituelle. Pour qu'elle ne vienne pas dans votre vie et que vous sachiez la discerner chez les autres. Et que vous compreniez. Vous n'avez jamais vu des chrétiens parfois qui marche bien avec le Seigneur, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui cloche. Et ils prennent une direction vraiment très bizarre. Des gens qui avaient l'air de bien commencer avec le Seigneur. Il vous dit, mais je ne comprends pas. Celui-ci, je lui ai témoigné de Jésus. Franchement, les 3-4 premières années de sa vie, c'était extraordinaire. Il vivait des choses fortes, même des choses que moi-même je n'ai pas vécues. Et puis qu'est-ce que tu vois au bout d'un moment? La personne rétrograde, se marie avec quelqu'un qui n'est pas sauvé. Quelques années plus tard, vous la retrouvez complètement par terre, dans des péchés, dans des histoires incroyables. Et vous dites, je ne comprends pas. On priait ensemble. Il était rempli du Saint-Esprit. Il se passait ça et ça dans sa vie.
Et tu dis,
mais comment se fait-il? S'il
n'y
a pas eu des influences derrière tout ça, dites-moi ce qu'il y a eu. D'un seul coup, la personne vire de bord. Fait une rencontre qui n'est pas divine, qui est satanique et qui va complètement changer sa vie dans le mauvais sens. Si vous ne croyez pas que c'est l'ennemi de nos âmes qui a amené ces choses-là dans la vie de la personne, alors qu'est-ce que c'est? Non, il y a un royaume invisible qui essaie d'influencer les hommes. Nous allons voir ce que Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6. Dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12, la Bible va nous parler d'un certain nombre de choses. Paul nous dit, nous n'avons pas à lutter. Il s'adresse à des chrétiens nés de nouveau. Il s'adresse à des chrétiens nés de nouveau qui sont dans le royaume de Dieu. Contre la chair et le sang, mais contre les, regardez bien, dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, Paul va nommer quatre types d'esprits mauvais devant lesquels nous allons avoir affaire. Ce sont quatre types d'esprits mauvais qui influencent sur la terre. Il y en a trois qui influencent directement au premier ciel. Et il y a un type d'esprit mauvais qui influence au deuxième ciel. Parce que la Bible ici fait, en fait, ici on voit qu'il y a deux groupes. Il y a les trois premiers, domination, autorité et prince de ce monde de ténèbres. Et après, il parle contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous savons qu'au troisième ciel, il n'y a pas d'esprit mauvais. Nulle part dans la Bible, vous le verrez. Donc, d'après l'enseignement de la parole que nous avons, nous pouvons déduire facilement plusieurs choses de ce texte. D'abord, qu'il y a quatre types d'esprits méchants mauvais, qui influencent, qui influence une partie pour un groupe, le premier ciel, et pour un autre groupe, le deuxième ciel. Et il semblerait que Paul fait une liste ici dans le domaine de la hiérarchie. C'est-à-dire que là, il classe les esprits mauvais. Il fait une liste de quatre. Et cette liste va en grandissant au niveau de la puissance. C'est ce qu'on pourrait voir, conclure assez facilement. Le diable travaille avec des méthodes. Il travaille avec des tactiques. Il travaille avec ses petits copains, les démons. On voit qu'il y a des influences sur des territoires, c'est très clair. Nous l'avons vu, chef du royaume de Perse, chef de Javan, la Grèce, l'Empire grec, Et puis on voit quand Jésus commence à chasser ce démon qui s'appelait Légion, tout le monde avait peur. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, vous savez, quand Jésus a envoyé dans les pourceaux, dans les cochons, les gens ont demandé à ce que Jésus quitte le territoire, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans cette région, le cochon était vénéré. Il était vénéré, c'est-à-dire il était adoré. Et là où il y a de l'idolâtrie, Et il y a des esprits mauvais qui peuvent s'ingérer dans les territoires. Là où les chrétiens sont nombreux, ces esprits mauvais s'en vont. Parce que justement, nous sommes ceux qui influençons la terre avec le royaume de Dieu. C'est pour ça que vous remarquerez que plus il y a de chrétiens dans un endroit qui marchent avec la parole de Dieu et dans l'obéissance au Seigneur, moins tous ces esprits-là ne pourront avoir une influence sur la terre dans cet endroit-là. On parle influence. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Donc, ici, Paul nous dit les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Trois types de mauvais esprits qui influencent au premier ciel. Un seul type d'esprit où il nous est dit clairement les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ça, on peut peut-être plus penser à comme le chef du royaume de Perse, le chef de Javan. Alors, le premier type de mauvais esprit que Paul va nommer, c'est principauté ou domination. Et en fait, littéralement, c'est vraiment ce que ça veut dire. C'est le mot grec arché, c'est-à-dire ce qui est en premier. Le deuxième type d'esprit qu'il va nommer, il va parler des autorités. Et littéralement, c'est le mot grec exousia, autorité légale. Rappelez-vous d'une chose. Le diable a reçu cette autorité pour gouverner la terre. Parce que Adam lui a donné. Donc les systèmes de ce monde sont des systèmes du prince de la puissance de l'air. Et donc, Satan a placé ses petits copains à droite et à gauche. Et c'est pour ça que nous devons marcher avec les lois du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre le royaume de Dieu. L'influence du royaume de Dieu dans ta vie. Parce que tu es sujet aux influences du prince de l'air. Regardons Éphésiens, chapitre 2, versets 1 et 2. Il est dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, regardez bien, selon le prince de la puissance de l'air. De l'esprit, donc il explique ce que c'est le prince de la puissance de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc tu vas comprendre que ton combat spirituel va être un combat d'influence et de puissance. Que ce soit par rapport à la façon dont tu marches avec Dieu, dont tu marches, avec laquelle tu marches avec les autres, des influences relationnelles,
des
finances, de ta bonne santé, de ta famille, de toutes sortes de choses. Les influences essayent de venir contre toi. C'est pour ça qu'il va falloir que tu contrecarres, tu t'opposes à ces influences. Du prince de la puissance de l'air par une autre influence qui est beaucoup plus puissante, qui est l'influence du royaume de Dieu dans ta vie. Parce que toi, tu es de la lumière, un enfant de lumière, au milieu d'un monde de ténèbres, un monde qui ne connaît pas Dieu et qui même s'oppose à Dieu. Et même quand le monde parle de Dieu, c'est faux ce qu'il dit. Et il faut faire très attention à cela. Ça, c'est les esprits religieux qui se manifestent. Les seuls qui parlent de la vérité, ce sont ceux qui sont dans la vérité en Christ, qui sont nés de nouveau et qui parlent parce qu'ils sont dans le royaume de Dieu. C'est une question de royaume et d'influence de royaume. Donc il va falloir que tu apprennes et que tu comprennes comment le royaume de Dieu peut t'influencer d'une façon incroyable et repousser l'influence des ténèbres. Parce que la Bible nous dit clairement que nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes dans ce monde. C'est-à-dire que toi, tu n'es plus du royaume des ténèbres. Tu es né dans le royaume de Dieu. Et le truc, c'est qu'il faut que tu comprennes que si tu veux te faire vaincre, si tu veux te faire influencer de la mauvaise façon, eh bien tu laisses, à ce moment-là tu vas laisser ces influences sataniques venir contre toi, les influences du monde venir contre toi. Et justement il va falloir que tu apprennes à inverser ce processus en laissant le royaume de Dieu tellement t'influencer que les influences sataniques sont repoussées et la domination de Christ dans ta vie se manifeste davantage. C'est ce que nous allons expliquer dans la suite. Parce que c'est vraiment là où je veux en venir. Vous montrer que nous sommes dans un monde d'influence. Et qu'il va falloir apprendre et comprendre comment ces influences fonctionnent pour que vous puissiez dominer dans les différentes situations. Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci parce que tu nous montres, Seigneur, dans ta parole des secrets que le monde ne connaît pas, que les hommes par leur intelligence ne peuvent pas comprendre. Merci parce que tu nous montres, Seigneur, les choses invisibles. Et tu nous montres exactement, Seigneur, les vérités de ta parole. Nous voulons te remercier parce que tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant. Et nous voulons que tu nous influences, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir des influences qui sont mauvaises. Et nous voulons comprendre, Seigneur, que ce monde essaye de nous influencer. Mais toi, ce que tu veux, c'est que ton royaume nous influence.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email msburundi@yahoo.fr.